Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
À partir du moment où il est contact, il doit lui-même avoir une politique où il s'isole, où il se protège. C'est exactement cette pratique à laquelle le Premier ministre sera soumis.
La règle s'applique même au chef du gouvernement. Jean Castex à l'isolement pendant une semaine. Son test au Covid-19 est ce soir négatif. Le Premier ministre en fera un autre dans 7 jours. En attendant, il travaillera par visioconférence. Origine de cette panique au sommet de l'État, le Tour de France. Jean Castex était samedi aux côtés du directeur de la course. Testé, lui, positif. Dans ce journal également, les témoignages glaçants des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo. Des réunions police-habitants dans les Bouches-du-Rhône pour lutter contre la délinquance. Et puis le foot, les Bleus affronte en ce moment la Croatie au Stade de France. Où vous vous trouvez, Cyril de la Morinerie?
Il reste encore plus d'une demi-heure à jouer et les Bleus et les Croates sont à égalité, 2 buts partout.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans ce journal de la nuit. La météo de demain, pluie et nuages orageux pour le sud, couvert mais sec pour le nord, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris, elle repasse ce soir sous la barre des 5000 points, moins 1,59%. Les détails avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview Echo à 22h20. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Laureline Cerise, General Manager France d'Uber. Le service de VTC annonce vouloir mettre fin au diesel d'ici 2024. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La menace d'une contamination au sommet de l'État a plané au-dessus du gouvernement tout au long de la journée. Résultat du test, négatif donc. Jean Castex ne présente ce soir aucune trace de Covid dans son organisme. Le doute s'était immiscé ce matin après l'annonce de la contamination du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui a passé plusieurs heures samedi en compagnie du Premier ministre. Le chef du gouvernement, qui reste potentiellement infecté en raison du temps d'incubation du virus, se soumettra à un autre test dans une semaine. En attendant, il va rester à l'isolement à Matignon, Jean-Rémy Bodo.
Oui, 7 jours isolés, comme tous les Français qui sont cas contact. Et comme tous les Français, Jean Castex devra donc se soumettre effectivement à un deuxième test. Ce sera samedi prochain. C'est donc une illustration publique et politique de ce que le gouvernement demande à tous les Français, se faire tester en cas de doute. Et c'est d'ailleurs le message qu'avait voulu faire passer Emmanuel Macron quand on a appris que Jean Castex était cas contact.
À partir du moment où il est contact, il doit lui-même définir ses propres cas contact, avoir une politique où il s'isole, où il se protège, c'est à cette situation que tous les cas contacts sont soumis. Et donc c'est exactement cette pratique à laquelle le Premier ministre sera soumis. C'est, nous faisons pour nous-mêmes ce que nous demandons à l'ensemble des concitoyens de faire.
Voilà, pas de traitement de faveur pour le Premier ministre. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a tenu ses propos. D'ici là, le Premier ministre va poursuivre son activité. Conseil des ministres, séminaire gouvernemental demain, tout ça en visioconférence. Et puisque la santé de nos dirigeants devient un sujet, sachez qu'aujourd'hui à Clermont-Ferrand, eh bien Emmanuel Macron a été pris d'une quinte de toux. Il a rapidement expliqué que il s'était juste étouffé. Pas de Covid, jure le président. Il a même tenu à expliquer en petit comité. Je me suis fait tester hier, je suis négatif.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et si on en est là, ce soir, c'est donc à cause du Tour de France. Aucun coureur contaminé, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est ce forfait inattendu. Christian Prudhomme positif au Covid-19. Le patron du Tour va se mettre en retrait et se veut rassurant pour la suite de la grande boucle. Il assure avoir tout fait pour ne pas côtoyer directement les coureurs et leur staff.
Nous n'avons pas souhaité que je sois dans la bulle course. Pourquoi ? Parce que précisément, je suis en contact avec bien plus de personnes que ne le sont les coureurs, avec des élus, avec des partenaires, avec des journalistes. Et donc, je ne voulais pas être dans cette bulle course dans laquelle est, par exemple, Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions. En revanche, j'ai souhaité me soumettre à tous les tests, comme n'importe quel coureur. Et donc, je vais me retrouver à l'écart pendant une semaine, jusqu'à mardi prochain, où je serai de retour sur le Tour, comme des dizaines de milliers de salariés français qui doivent rester éloignés de leur travail quand ils sont dans le même cas que moi. Je veux aussi relativiser tout ça. Il y a eu 30 000 morts en France. Moi, je suis testé positif, mais je me porte très bien. Le plus important pour moi, c'est qu'il n'y ait aucun coureur testé positif parmi les coureurs.
Christian Prudhomme au micro Europe 1 de Marguerite Lefèvre. Alors, vous l'avez entendu, Jean Castex ainsi que le directeur du Tour de France comptent se mettre à l'isolement pendant une semaine et non 14 jours, comme c'est toujours la règle officiellement ce soir. Une règle qui devrait être modifiée vendredi lors du Conseil Conseil de défense. Le Conseil scientifique a en effet rendu un avis favorable pour abaisser à 7 jours la durée de quarantaine des cas contacts et personnes testées positives. Les tests, justement, pas simple aujourd'hui d'y avoir accès. Il faut faire la queue pendant des heures devant les laboratoires et encore patienter plusieurs jours pour obtenir le résultat. Des scènes qui pourraient bientôt appartenir au passé avec l'apparition dès cette semaine de tests ultra rapides. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé ce matin et peut-être un peu trop vite, Anne Le Gall, vu que ces tests n'en sont pour l'heure qu'au stade expérimental.
Ces nouveaux tests rapides qu'on appelle tests antigéniques ont encore besoin de faire leurs preuves avant d'être utilisés à grande échelle, mais ils ont l'immense avantage de donner des résultats en seulement 15 minutes contre plusieurs jours actuellement. En fait, la technique n'est pas la même, il faut toujours faire un prélèvement en passant par l'étape écouvillon dans le nez, mais ensuite, ce test repère des protéines du virus en quelques minutes. Pas besoin d'analyse lourde en laboratoire, il suffit de déposer le prélèvement sur une bandelette et d'attendre le changement de couleur comme dans un test de grossesse. Plusieurs laboratoires dans le monde travaillent sur cette technique. À ce stade, elle n'est utilisée qu'à titre expérimental en France, mais justement, 100 000 nouveaux tests rapides doivent être livrés cette semaine aux hôpitaux de Paris, nous dit-on au ministère de la Santé, afin de continuer à vérifier leur performance sur le terrain.
Les précisions d'Anne Le Gall, l'une des spécialistes santé d'Europe 1. Il n'est finalement pas nécessaire de laver ses masques réutilisables à une température de 60 degrés. C'est le correctif donné aujourd'hui par l'Académie nationale de médecine. Contrairement à ce qui était préconisé depuis le début de la crise, les masques en tissu peuvent être lavés à la main ou avec un détergent comme pour le linge de corps, précisent les médecins. Les chiffres de l'épidémie en France, plus de 6500 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures.
Europe Soir, le 22-22-30.
Après le visionnage éprouvant hier des images de la tuerie de Charlie Hebdo, les rescapés de l'attaque ont témoigné aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015, avec notamment Chloé Triomphe, l'intervention poignante de l'une des dessinatrices de Charlie Hebdo, Corinne Ray, alias Coco.
Oui, c'est d'une voix posée mais délicate, tout en émotion retenue, que Corinne Ray a livré son récit de cette matinée du 7 janvier. Ce moment où les terroristes l'interpellent par son surnom. Coco, Coco, se rappelle-t-elle à haute voix devant la cour, toujours interloquée, que les terroristes aient pu connaître son nom. Corinne Ray raconte sa montée dans l'escalier sous la menace, le digicode tapé dans une détresse absolue, la détermination des terroristes et leur excitation perceptible alors qu'ils touchaient à leur but en répétant « on veut Charb ». La suite, ce sont les tirs saccadés à la Akbar qui résonnent, suivis d'un silence de mort. Rescapée, meurtrie par la scène d'épouvante qu'elle découvre alors, Corinne Ray décrit ensuite les images comme des instantanés figés dans son esprit. Les jambes de Cabu avec des miettes de pain qu'il mangeait avant l'attaque. La pâleur extrême du visage de Charb. Corinne Ray exprime aussi sa culpabilité de s'être sentie impuissante, sa solitude durant ces longues minutes, avant de conclure son témoignage par cette phrase. Aujourd'hui, je sais que les seuls coupables sont les terroristes, ceux qui les ont aidés et plus largement dans la société, tous ceux qui ferment les yeux et qui baissent leur froc devant l'islamisme.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès des attentats de janvier 2015 où un hommage a également été rendu à la première victime de ce 7 janvier, victime anonyme, parfois oubliée, Frédéric Boisseau, employé de la société Sodexo, abattu dans le hall de l'immeuble par les frères Kouachi. Je vous le disais en début de ce journal, le travail du gouvernement va être quelque peu chamboulé par la mise à l'isolement de Jean Castex. Ce sera donc par visioconférence que se tiendra demain le séminaire de rentrée axé sur le séparatisme et la sécurité, et ce en plein débat sur la montée de la violence dans la société. Un problème pris à bras-le-corps dans les Bouches-du-Rhône où depuis 2 ans et demi se tiennent des conseils de sécurité. Le 1500e a eu lieu ce matin. Il s'agit, Nathalie Chevance, de réunions locales où policiers, élus et habitants tentent de trouver des solutions pour lutter contre la petite délinquance.
Oui, c'est ça. Vol, petit trafic, incivilité, stationnement anarchique, problème de voisinage. Autant de faits rapportés par des bailleurs sociaux, des commerçants, des enseignants, des citoyens, comme Jeanne qui habite le quartier de Noailles.
J'ai été menacée verbalement par le propriétaire d'un bar dont on dit qu'il fait trop de bruit. On a planté un couteau dans mes volets quelques jours après. Et du coup, j'ai été très surprise du retour que j'ai eu de soutien. Police nationale, la police municipale, tout le monde s'est vraiment penché pour le coup sur cette affaire, alors que ça faisait des mois et des années, voire il y a tous les riverains du quartier qui n'en peuvent plus et qui avaient l'impression de crier dans le désert.
Fermeture administrative, vidéosurveillance, mutualisation des services de police, autant d'outils pour tenter de diminuer ce sentiment d'insécurité bien réel dans le secteur de la mer Les Insoumis, fraîchement élue, Sophie Camard, qui croit au dispositif.
Je suis plutôt agréablement surprise parce que quand tous les acteurs sont autour de la table, ça permet vraiment d'avoir des contacts, de savoir où en est chaque interlocuteur. Moi, je pense qu'on va beaucoup s'investir dans ce type de structure et il nous a quand même bien été remonté pendant la campagne qu'il fallait qu'on lutte contre ce sentiment d'abandon et d'impuissance.
Avec aussi la volonté du préfet de police de faire connaître au plus grand nombre ses conseils de sécurité d'arrondissement qui se réunissent deux fois par mois.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. La présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, est parvenue à un accord avec le gouvernement pour compenser les pertes de recettes liées au Covid-19. Le manque à gagner est estimé à 2,6 milliards d'euros pour les transports franciliens. Valérie Pécresse sera sur Europe 1 demain matin, l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 dans la matinale de Mathieu Béliard.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h passées de 10 minutes, l'heure de vous parler d'un film dont on est très fier ici à Europe 1 d'être le partenaire. La Daronne, c'est le titre de cette comédie qui sort demain en salle, avec en rôle principal une Isabelle Huppert qui joue les dealeuses. Et ça, ça donne envie d'aller au cinéma, Mathieu Charrier.
Oui, et rien que pour voir Isabelle Huppert en trafiquante de drogue, ça vaut le coup d'aller au cinéma. Alors en fait, l'histoire, elle est simple. Au tout début, son personnage, qui s'appelle Patience Portefeuille, est interprète à la Brigade des Stupéfiants. Elle a une vie plutôt terne, elle est d'ailleurs elle-même assez austère, lorsqu'un jour, elle surprend une conversation entre dealers qui évoque la livraison d'une grosse quantité de drogue, de cannabis, et elle va se dire « Tiens, tiens, si je la récupérais et si je l'écoulais moi-même, cette drogue, ça mettrait un peu de beurre dans les épinards. » En plus, elle a tous les réseaux, tous les numéros des dealers, puisque comme elle fait les écoutes téléphoniques, eh bien, elle peut récupérer les numéros. Et notre patience, Isabelle Huppert, donc, devient une dealeuse à la tête d'un vrai réseau. Elle a même appris l'arabe, Isabelle Huppert, pour être crédible en traductrice. Alors, on n'est pas dans de la grosse comédie qui tâche, hein, mais on est dans un film qui nous raconte autre chose, qui est original, avec Isabelle Huppert dans un rôle où l'on n'a pas l'habitude de la voir. Moi, j'avais vu ce film il y a plusieurs mois, avant le confinement. Aujourd'hui encore, j'ai des scènes en tête, des situations, des moments comiques. Donc vraiment, c'est un bon moment de cinéma. Ça s'appelle La Daronne. C'est signé Jean-Paul Salomé.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1. La Daronne, film Europe 1, donc demain dans vos salles. Le Tour de France, la course cette fois. La 10e étape reliant l'île de Léron à l'île de Ré a été remportée au sprint par l'Irlandais Sam Bennett. Le Slovène Primoz Roglic conserve pour sa part le maillot jaune. On termine avec le foot. Deuxième match de Ligue des Nations pour les Bleus. France-Croatie. Cyril de la Morinerie, vous êtes dans les tribunes du Stade de France où vous assistez à une deuxième période très prolifique.
Effectivement, avec pas mal de buts, puisque nous en sommes à 3-2 en faveur de l'équipe de France. On joue depuis 70 minutes maintenant dans ce stade donc qui est vide, avec Lovren à la 17e minute, l'ancien Lyonnais qui a marqué du pied gauche le premier but de cette rencontre, 1-0. Et puis dans les deux dernières minutes de cette première mi-temps où les Français avaient été ballottés, manqués d'automatisme, eh bien ils ont réussi à égaliser, à prendre l'avantage d'abord avec le 31e but de Griezmann avec le maillot tricolore, et puis à la 45e minute dans le temps additionnel, c'est Livakovic sur une action de Martial qui a marqué contre son camp, le gardien de but de cette formation croate. On est reparti en deuxième mi-temps avec une égalisation donc de Brekalo à la 55e minute, et puis heureusement pour les Français, eh bien à la 65e minute sur un corner, Upamecano, le jeune joueur, a marqué son premier but avec le maillot de l'équipe de France, d'une belle tête. À noter dans cette partie où les Français mènent donc 3-2, eh bien la première sélection, il est entré à la 63e minute, de Camavinga, Eduardo Camavinga, originaire d'Angola. Il en est parti à l'âge de 3 ans et à 17 ans, il est devenu 17 ans, 9 mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l'équipe de France de l'après-guerre. Il fallait quand même le dire, bravo à lui. 3-2 pour les Français face aux Croates, 70 minutes de jeu.
Merci Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France. On vous retrouve dans quelques minutes pour le coup de sifflet final. Et puis autre record toujours en foot, le 100e but inscrit ce soir par Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. On passe à la météo de demain.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa Haddadi, demain le temps se dégrade sur le sud-est.
Oui, et ce dès demain matin, Julien, sur le pourtour méditerranéen, le ciel est couvert avec sur les Bouches-du-Rhône et le Var des orages. De l'Hérault aux Pyrénées-Orientales, là il pleut dès le début de journée. Et puis un peu plus au nord, hein, sur la région parisienne, le nord et les Ardennes, et bien là c'est un ciel couvert qui vous attend pour demain matin. Dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir au nord et puis sur le golfe du Lion, le temps reste toujours agité avec des précipitations accompagnées de coups de tonnerre, des pluies qui vont remonter jusque sur le Cantal. Alors partout ailleurs, le soleil brille entre le nord et le golfe du Lion. Là, c'est du grand et beau soleil. Encore une journée estivale avec de la chaleur. 8 à 15 degrés en général demain matin, jusqu'à 20 au bord de la Méditerranée sous la pluie. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 20 à 25 degrés sur le nord et l'ouest. 21 à Dunkerque, 23 à Caen, 24 à Lille. 25 à 30 degrés en général avec 25 pour Paris, 27 à Dijon et Nice, 28 à La Rochelle et jusqu'à 32 degrés dans le sud-ouest. 32 pour Brive-la-Gaillarde ou Périgueux.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Luteil reçoit ce soir Laureline Sariès d'Uber France, le service de VTT qui se met au vert. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street, justement, a terminé ce soir en forte baisse dans le sillage d'une nouvelle correction des valeurs technologiques.
Oui, le retour de week-end est difficile à New York après une pause de 3 jours. Hein, c'était la fête du travail hier aux États-Unis. Et comme la semaine dernière, c'est le Nasdaq qui trinque. L'indice des valeurs de technologie repère 4,1% ce soir, 10 848 points. Le Dow Jones recule plus modestement, mais recule quand même nettement, moins 2,25% à 27 500 points. Donc les valeurs de technologie en forte baisse de nouveau, des dégagements sur les valeurs qui étaient beaucoup montées cet été. On a Apple, moins 6,7%, $112,82. Et surtout Tesla, qui retombe ce soir de 21%. $330, la bulle se dégonfle, c'est moins spectaculaire mais c'est sensible quand même sur Amazon, moins 4% avec Facebook, on a aussi Microsoft, moins 5,4%, IBM perd 0,9%. Et puis parmi les secteurs les plus affectés aussi figure l'énergie, avec une correction des cours du brut en raison de la faiblesse de la demande internationale. Aramco, le groupe saoudien, a annoncé une baisse de ses prix, de quoi faire rechuter le baril de Brent sous les $40, $39,80 ce soir, c'est une baisse de l'ordre de 5%. Sur les devises, l'euro recule sous les 1,18, 1,1775 face au dollar.
La bourse de Paris, pour sa part, a rechuté lourdement, emportée par Wall Street.
Oui, c'est assez logique, hein. On était remonté hier. On dansait un petit peu, hein. C'était les souris qui dansaient sans Wall Street hier, et puis ça a rechuté lourdement, moins 1,59% aujourd'hui, ça veut dire que toute l'avance d'hier a été reperdue, 4 973 points sous les 5000 points sur le CAC 40, quelques grandes valeurs ont corrigé sévèrement, comme EDF qui perd 8%, 8,13 €, après une importante émission d'obligations de 2,4 milliards d'euros. Dans le même secteur de l'énergie, mais du côté du pétrole cette fois, Technip chute de 8%, CGG moins 6%, Vallourec moins 4%, avec le baril donc qui perd plus de 5% sous les $40, le Brent. Et puis l'aéronautique qui perd encore du terrain, Airbus moins 4%, Figeac après des comptes plombés par la crise, moins 2,7%. Safran moins 2,5% avec Thales.
Exception du jour, le secteur automobile a bien résisté.
Oui, ça se passe plutôt bien, ça résiste après la hausse récente du secteur. On tient bon, les équipementiers affichent une légère progression, encore une hausse de l'ordre de 0,5% sur Valeo, sur Faurecia. Et puis les constructeurs aussi, le succès des motorisations hybrides et électriques se confirme sur les dernières semaines. On a Peugeot qui monte de 0,6%. 15,60 €, on a Renault qui résiste, 25,15 € ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse partout, moins 0,9 %, ça retombe à Francfort. On a aussi Bruxelles, moins 1,6 %, Madrid, moins 1,8 % avec Milan. Et puis le CAC 40 donc en baisse d'1,59 %, 4 973 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain.
À demain.
22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Laureline Sariès d'Uber France.
Bonsoir Laureline Sariès. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes, comme on dit, General Manager d'Uber en France. Uber, est-ce qu'il faut encore présenter ces services de voitures de chauffeurs qui sont venus concurrencer nos bons vieux taxis? Alors là, vous annoncez aujourd'hui une révolution verte d'une certaine manière, et c'est pour ça que nous avons eu envie d'être en ligne avec vous ce soir. Vous promettez zéro véhicule diesel en 2024 et 50% de véhicules électriques en 2025 en France. J'ai envie de dire, vous faites juste en sorte de pouvoir rouler dans les centres-villes des grandes villes et notamment à Paris dans les années à venir. Ce n'est pas véritablement un engagement vert, c'est juste se mettre en conformité.
Alors la dimension conformité, elle vient effectivement du fait qu'on est très heureux de pouvoir s'inscrire dans des plans comme celui de la mairie de Paris, effectivement qui a annoncé de toute façon la fin du diesel dans ses rues à partir de 2024. Mais on tient à prendre un engagement bien plus large que ça, qui est unique dans le secteur de transport de personnes, dans le secteur de transport routier de personnes individuelles, et qui consiste à non seulement prendre cet engagement sur Paris, mais plus largement pour l'ensemble de la France, et également à opérer la transition vers l'électrique, qui n'est pour l'instant pas annoncée et cadrée à horizon 2025 avec 50% de véhicules électriques sur la plateforme.
Donc c'est donc là sur l'électrique un engagement très fort. Ça va coûter cher bien évidemment pour vos chauffeurs. Vous vous engagez à les aider à hauteur de combien ?
Oui, bien sûr. Alors, l'accompagnement des chauffeurs, utilisateurs de la plateforme Uber est un point absolument crucial pour nous. On a beaucoup travaillé avec eux, échangé, construit ce plan de manière progressive avec eux. Et la dimension de un des freins principaux, c'est bien évidemment le frein d'acquisition du véhicule. Et pour ça, on a mis en place une enveloppe de 75 millions d'euros qui viendra pour aider les chauffeurs à financer leur voiture électrique. Et ce fonds sera constitué d'apports de la part de nos utilisateurs, puisque nous allons augmenter légèrement le prix des courses sur l'ensemble de nos options, à part Uber Green, de 3 centimes par kilomètre.
Ça entre en vigueur quand, cette augmentation ?
À partir du 1er janvier 2021. Et ensuite, tout chauffeur qui souhaitera concrètement acheter un véhicule électrique se tournera vers Uber, qui doublera la mise. Donc, pour vous donner un exemple, un chauffeur engagé sur 3 ans pourra obtenir 4 500 euros de prime à l'achat d'un véhicule électrique.
Et pour essayer de les aider un petit peu, et j'imagine aussi pour uniformiser votre flotte, vous avez signé des partenariats, par exemple, avec Renault et Nissan ?
Oui, tout à fait. Avec Renault-Nissan, c'est une dimension extrêmement importante parce qu'on a parlé du volet financier qui est un premier frein. Mais il y a d'autres freins que celui-ci au passage à l'électrique. Il y a d'abord la disponibilité des véhicules. Est-ce qu'on peut les acheter rapidement quand on passe commande, par exemple? Il y a aussi des freins qui sont liés à la recharge et aux infrastructures de recharge à domicile ou en ville pour pouvoir ensuite recharger des véhicules électriques. Ce qui veut dire que nous avons noué des partenariats avec l'alliance Renault-Nissan, mais aussi avec EDF pour avoir accès à leur borne de recharge à Paris préférentiel, et avec une start-up nommée PowerNote, avec laquelle nous allons installer des stations de recharge spécialement dédiées aux chauffeurs Uber.
Vous prenez un autre engagement, c'est 100% des déplacements dans des véhicules à émission zéro d'ici 2040. Enfin, d'ici 2040, on se dit que c'est pas très ambitieux, non ?
Alors ça, c'est une ambition qui est à l'échelle globale, c'est-à-dire pour Uber dans le monde entier, sachant qu'en fonction des pays, évidemment, la maturité du marché du véhicule électrique et des infrastructures est extrêmement différente. Et pour ce qui est de l'Europe en particulier, on a une ambition qui est plus forte que ça, étant donné les engagements de beaucoup de pays dans cette direction-là. Et cet engagement de neutralité carbone est à l'horizon 2030 pour l'Europe.
Pour l'Europe, donc, dès 2030. Si on regarde maintenant ce qui se passe en France après la période du confinement, est-ce que déjà, toute première question toute simple, est-ce que l'activité est revenue à la normale du côté d'Uber après le confinement?
Alors effectivement, l'activité d'Uber, en tout cas la partie VTC de son activité, a été très fortement impactée. Pour vous donner un chiffre, et au niveau mondial, le volume d'affaires sur la partie VTC de l'activité d'Uber a chuté de 73% par rapport à l'année passée. Donc ça, c'était sur le deuxième trimestre. Et ce qu'on observe, et cette fois pour la France, c'est effectivement un retour à l'activité. Mais il faut distinguer en fait les différences qu'on appelle les cas d'usage, c'est-à-dire les motifs d'utilisation d'une voiture sur la plateforme Uber. Et typiquement, les trajets qui n'ont pas encore retrouvé du tout leur niveau de l'année dernière, c'est les trajets aéroports, puisque le trafic aérien est encore assez fortement pénalisé.
Et c'est une partie non négligeable, j'imagine, du trafic d'affaires chez vous.
En fait, voilà, exactement. Pour vous donner quelques éléments plus précis, les trajets à aéroports, on est à 40% du niveau d'activité qu'on avait l'année dernière à la même époque, là où globalement, sur l'ensemble de notre activité pour la France, nous sommes revenus à hauteur de 70%.
Malgré tout, on voit que vous êtes encore très nettement en dessous de ce qui se passait, par exemple, l'année dernière. Comment vous faites pour compenser l'éventuel manque à gagner à vos chauffeurs ?
En fait, la partie de rémunération des chauffeurs est évidemment un axe extrêmement important. Et ce qui se passe, c'est qu'on a aussi moins de chauffeurs qui sont revenus sur l'application pour l'instant.
Vous en avez qui sont partis, qui ont abandonné le métier à cause de ces difficultés ?
Alors, on ne sait pas s'ils l'ont abandonné. Ce qu'on observe simplement, c'est qu'effectivement, pendant la période de confinement, un certain nombre de chauffeurs ne travaillaient plus. Ils avaient fait le choix, évidemment, de ne plus travailler sur la plateforme et qu'aujourd'hui, le niveau n'est pas revenu. Alors, on ne sait pas encore. Il est encore tôt pour dire, avec le rebond qui se fait. Je vous disais tout à l'heure, on est passé de moins 70% au deuxième trimestre à moins 30% maintenant. On ne sait pas comment ça va évoluer sur les prochains mois. Donc, il faut encore un petit peu attendre pour savoir.
Enfin, toute dernière question, il y a également une dimension Uber Eats, là, de la livraison de repas par le biais de livreurs. Là, ça a bien évidemment connu un énorme bond dans les centres urbains pendant le confinement. Est-ce que les habitudes prises se tiennent et est-ce que du coup, là, vous êtes en forte progression, plus que ce que vous auriez escompté sans le confinement ?
Alors, effectivement, il y a eu un essor de l'activité. Donc, de la même manière que je vous disais que l'année dernière, pour la partie mobilité, donc les VTC, au deuxième trimestre, on avait enregistré un recul de 73%. Sur la partie Uber Eats au niveau global, on a augmenté, au contraire, on a enregistré une augmentation de 113% dans le monde, ce qui est du coup quelque chose d'extrêmement important. Et en France, par exemple, pour accompagner cet essor et pouvoir être le plus utile possible pendant la période de Covid et de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons mis en place un partenariat avec Carrefour pour proposer de la livraison de nourriture à domicile, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Laureline Seriès, la générale manager d'Uber en France, était notre invitée ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et puis on ira faire un tour au Stade de France où les Bleus mènent face à la Croatie. À tout de suite. Et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Insécurité, de quoi parle-t-on ? Interroge la Croix qui rappelle que les questions sécuritaires seront demain au cœur du séminaire gouvernemental de rentrée. La lutte contre la délinquance et le piège du ressenti, titre pour sa part l'Opinion. Les chiffres ne sont pas bons, assène Nicolas Bétou, ceux de l'économie sont épouvantables, mais en raison de la crise sanitaire, personne à ce stade n'en tiendra rigueur au chef de l'État. En revanche, ce sera une toute autre chose pour ceux de l'insécurité, écrit l'éditorialiste. Il ajoute, tout n'est qu'une question de ressenti. Et pour l'heure, il est glacial ce ressenti. Trois ministres de l'Intérieur en 3 ans, de graves désordres de rue, une sorte de refus d'obstacle sur les questions de communautarisme. Bref, suffisant pour que cette idée, ce ressenti s'installe, celui qu'Emmanuel Macron est faible sur le régalien. Voilà donc en partie ce que vous pourrez lire demain dans vos journaux. Avant de laisser le micro à Olivier Delacroix et sa libre antenne, retournons rapidement au Stade de France où les Bleus affrontent la Croatie. Il ne reste plus que quelques minutes, Cyril de la Morinerie.
Oui, 4-2, il reste 3 minutes, 4-2, comme, ça ne vous a pas échappé, mais à la finale de la Coupe du Monde, il y a 2 ans, il s'était imposé les Français 4-2, alors ce n'est pas terminé bien évidemment ici, peut-être est-ce un signe, en tout cas le dernier but français, eh bien il était marqué sur pénalty, une main de Lovren sur une action de Griezmann, et Griezmann, eh bien, il avait manqué ses 3 derniers pénaltys, il a décidé de laisser à Giroud le soin de le tirer, et Olivier Giroud a réussi son pénalty, il en est donc à 40 buts avec le maillot de l'équipe de France à une unité de Michel Platini qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Giroud s'en rapproche avec, on vous le rappelle, l'entrée en jeu tout à l'heure à la 63e minute d'Eduardo Camavinga qui est devenu le plus jeune international français de l'après-guerre. Voilà, 4-2 pour les Français, ça se passe très bien en deuxième période à 2 minutes du terme de cette partie.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir. Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien, 4-2, c'est magnifique.
Oui, on va dire ça, on a eu une meilleure deuxième mi-temps tout de même. J'étais un peu inquiet en première,
oui,
je vais vous dire.
Le niveau n'était pas terrible. À l'inverse de celui de la Libre Antenne que vous allez nous concocter en direct avec les auditeurs qui peuvent vous appeler à tout moment au 39-21.
Exactement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure Julien.